Radio 1. Premier sur l'info. L'info locale.
Votre actualité locale avec Benoît Biquet sur Radio 1. Bonjour Benoît.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. L'information de ce matin, le Télévao menacé par une amende douanière gigantesque, plus d'1 milliard de francs pacifiques, du jamais vu, dit la direction. Explication d'Antoine Samoyo dans un instant. Une étude de l'ISPF sur nos comportements alimentaires. Nous mangeons trop, et en particulier trop salé, trop gras et trop sucré. 10% des personnels de l'éducation en grève hier à l'appel des syndicats contre la loi Blanquer. Et puis au Tavini, 100 000 bulletins Maori-Nui sont prêts à être distribués. La conférence de presse d'Oscar Temaru pour expliquer ce sujet a lieu hier. Du sport en fin de journal avec la Transpac, une course à voile qui revient. Ce sera en mai 2020. Départ de Los Angeles, arrivée à Tahiti. Et une info surf, Michel Borrez a passé un tour de plus en Australie la nuit dernière.
On démarre avec cette amende douanière astronomique de 1 milliard de francs qui menace le Télévao.
La Cour de cassation a rendu le 20 mars dernier une décision qui pourrait être lourde de conséquences pour la société qui gère le navire qui assure la liaison Tahiti-Moorea. À l'origine du litige, un problème de dédouanement lors de l'acquisition du navire en 2012. À l'époque, la société et son transitaire, Alfred Transit, avait appliqué le mauvais taux d'exonération fiscale pour le dédouanement du navire. Les précisions d'Antoine Samoyo.
En 2014, la douane avait notifié une infraction douanière à Alfred Transit pour une mauvaise exonération des droits et taxes payés. La société qui gère le Télévao avait reconnu son erreur et mis en avant sa bonne foi en expliquant avoir demandé des informations à la douane et au pays sans obtenir de réponse. Depuis, les droits et taxes ont été régularisés, mais une procédure pénale a été enclenchée pour fausse déclaration. En première instance et en appel, les juges ont pourtant relaxé la société qui gère le Télévao et Alfred Transit, se basant justement sur la bonne foi des deux prévenus. Mais il y a quelques jours, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, estimant que la bonne foi ne pouvait être retenue. L'affaire doit donc être rejugée devant la Cour d'appel de Papeete. Tout le problème, c'est qu'en cas de condamnation en appel, l'amende douanière qui menace les deux entités est astronomique. Elle s'élève en effet au double de la valeur de l'objet de la fraude, soit le double de la valeur CAF du navire de 527 millions 1,55 milliard de francs à régler solidairement par la société et par son transitaire.
Et la direction de la société confirme qu'elle prépare sa défense en appel, mais elle reste estomaquée. Ce serait incroyable pour une société de payer une telle amende. On n'a jamais vu ça, déplore la direction qui rappelle avoir régularisé sa situation et qui reste quand même confiante. Il existe, dit-elle, des mécanismes pour éviter de telles sanctions si elles venaient à être infligées.
Nous mangeons trop et en particulier trop salé, trop gras et trop sucré, confirme une étude de l'ISPF.
L'Institut de la statistique de la Polynésie française qui a présenté hier cette étude sur les comportements alimentaires des Polynésiens, étude réalisée à partir des chiffres des dépenses alimentaires obtenues dans l'enquête sur le budget des familles. Résultat donc, la classe aisée consomme trop de sucre, la classe moyenne trop de gras, et enfin les ménages les plus pauvres consomment trop de féculents. Écoutez le chargé d'études de l'ISPF, Mathieu Bolduc.
On retrouve des gens qui vont consommer davantage d'amidon dans leur régime alimentaire. En contrepartie, ils vont consommer moins de lipides. C'est des gens qui ont des revenus un peu plus modestes. Ensuite, on va avoir une autre classe d'individus qui ont des moyens, en fait, hein, qui ont des ressources et qui ont une forte consommation en sucre. Notamment, en moyenne, ils sont à 170 grammes de sucre par jour. Ça représente à peu près le quart de la population. Donc, une consommation excessive de sucre. Ensuite, on a une classe d'individus qui vont consommer davantage de protéines. Alors, c'est des gens qu'on va retrouver plus aux Australes, plus dans les Tuamotu Gambier. Et eux, leur consommation est imputable à une consommation de poissons, notamment. Et une dernière classe qui représente 40% de la population de la Polynésie française, qui réfère plutôt à une consommation très forte de lipides, qui se caractérise notamment par une consommation d'huile alimentaire beaucoup plus importante, notamment de l'huile de tournesol, par une consommation de frites, par exemple.
Et selon l'ISPF, 40% de la population a donc un comportement de consommation alimentaire à risque, car beaucoup trop riche. Mathieu Bolduc était au micro de Valentine Bluet.
10% des personnels de l'éducation se sont mis en grève hier à l'appel des syndicats contre la loi Blanquer.
Chiffre annoncé par le gouvernement hier, 14% de grévistes dans le premier degré, 6,5% dans le second degré, 10,22% en moyenne globale. Un enseignant sur 10 en grève et un rassemblement devant le Haut Commissariat hier matin pour protester contre la loi du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, avec des slogans comme « L'école n'est pas une entreprise ». John Moe, secrétaire général du SNUIPP, explique qu'il refuse une école au rabais.
La loi Blanquer considère l'école comme une espèce d'entreprise, une école qui est considérée comptablement. Donc les suppressions de postes qui sont envisagées par les différents articles proposés par la loi Blanquer, on ne peut pas le cautionner. Voilà. Je veux en outre parler de la disparition peut-être de certains postes de direction. Je veux parler des remplacements qui seront effectués peut-être par des étudiants non formés. Je n'ai rien contre les étudiants, c'est pas ça le problème. C'est que au bout, c'est la qualité de l'enseignement qui sera dispensée aux élèves qui va en pâtir et les élèves seront moins bien formés.
Propos recueillis par Vaïté Ourar Ipambrin. Le syndicat a décidé la mise en place d'une action participative. Aujourd'hui, plus de 300 adhérents vont déposer des recours individuels à la DG2E et au ministère de l'Éducation pour obtenir un positionnement clair par rapport à la loi Blanquer.
La cour d'appel statuera le 2 mai sur les peines de prison pour les trois receleurs du gang des ferrailleurs.
Ces trois receleurs avaient été condamnés en 2016 à des peines de 2 à 3 ans de prison ferme pour leur implication dans ce gang des ferrailleurs qui sévissait en 2010-2011, peine annulée par la Cour de cassation en 2018 parce que insuffisamment motivée. Hier, une nouvelle audience en appel a donc eu lieu juste pour statuer sur les peines de prison, délibérée le 2 mai dans cette affaire. Et puis le procès en appel de l'ancien représentant et maire de Huahine, Félix Fatao, pour détournement de biens publics, prise illégale d'intérêt et abus de confiance, a lui été renvoyé hier au 4 juillet prochain.
Au Tavigny, 100 000 bulletins Marinoui sont prêts à être distribués.
Oscar Temaro est revenu hier au cours d'une conférence de presse à la mairie de Faa sur les élections européennes et sur ces fameux bulletins de vote Marinoui qui vont être distribués par milliers. Il considère que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna sont une opportunité pour l'Europe et que l'océan Pacifique est en train de devenir le centre de l'économie mondiale.
Tout ce qui est apporté d'Europe, il y en a pour plus de 100 milliards. Ça ne fait pas les droits de douane. Dans les échanges, nous prenons peut-être 10 milliards par an. On nous parle des 4 milliards qui sont investis pour l'assainissement. Faites le compte. Nous sommes déficitaires, nous sommes perdants. Nous, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, une opportunité pour l'Europe. C'est ça l'idée, c'est ça qu'il faut dire. Il est temps qu'on se lève, qu'on aille tous voter pour notre zone économique d'avenir. Sur le plan culturel, sur le plan politique, c'est l'océan Pacifique qui est en train de devenir le centre de l'économie mondiale. Voilà notre cadre normal naturel pour l'avenir.
Alors c'est le Tavigny hein, qui imprime les bulletins Mauhinui. Oscar Temaro explique que plus d'une centaine de milliers de bulletins de vote sur lesquels seront inscrits Mauhinui vont être distribués aux différents comités du parti. Il espère voir 100 000 bulletins nuls dans les urnes le 25 mai prochain. C'est Vaïté Ourar Ipambrin qui a assisté à sa conférence de presse hier.
La Transpac, une course à voile de Los Angeles à Tahiti, revient en mai 2020.
12 ans après sa dernière édition, Archipelagos relance la Transpac Tahiti. Le départ sera donné le 28 mai 2020 de la marina de Long Beach en Californie. Une course en voilier de 3520 000 marins, 6300 km entre Los Angeles et Tahiti. La route, paraît-il, est agréable et se prête parfaitement à ce type de course, explique l'un des quatre participants déjà inscrits, Benoît Parnaudot, sur Classe 40.
Partir comme ça pour faire des courses, ça demande de l'exigence sur les voiliers. Et nous, on est arrivé avec ce bateau-là il y a 4 ans, on n'a pas fait beaucoup d'entretien dessus. Et donc, ça va nous permettre de remettre d'abord le bateau à niveau pour qu'il puisse repartir en mer. Et après, aller prendre du plaisir en mer et se tirer la bourre avec des copains.
Selon vous, c'est dur cette course entre Los Angeles et Tahiti?
Non, c'est pas très compliqué parce que c'est des vents qui poussent et c'est les alizés. Donc, normalement, il n'y a aucun phénomène dangereux à attendre sur la route. Ce qu'on peut avoir peur peut-être d'une panne de vent, mais c'est pas dangereux quoi. Donc, non, c'est vraiment des super conditions pour faire du surf.
Et c'est une course qui a déjà 95 ans et il y a un record à battre, 11 jours, 10 heures et 13 minutes. La traversée Los Angeles-Tahiti, record établi en 2008 par Doug Baker sur Magnitude 80.
Ouais, on est d'accord, peut mieux faire. En surf, Michel Bourez a passé un tour de plus en Australie cette nuit, Benoît.
C'était le troisième tour de la Quicksilver Pro Gold Coast sur la côte ouest australienne. Michel Bourez a battu en face à face le Brésilien David Silva avec une note cumulée de 10,96 sur 20. Pas faramineux, mais ça suffit pour passer. Et donc, pour le quatrième tour, tout à l'heure, Michel Bourez sera opposé à l'Australien Wade Carmichael. Sachez qu'on a déjà Kelly Slater, Julian Wilson et les deux Français Jérémy Flores et Johan Duru qui sont éliminés. Et puis, dernière info sport, ne manquez pas le rendez-vous foot du week-end. Le quart de finale de la Ligue des Champions de l'Océanie entre Central et Magenta de Nouvelle-Calédonie. C'est dimanche soir, 19h au Stade Pater, ou pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, sur la page Facebook de TNTV.